Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
C'est un rallye de légende, le Dakar, que l'on appelait autrefois le Paris-Dakar. L'édition 2021 s'est achevée tout à l'heure en Arabie Saoudite dans l'indifférence quasi générale, malgré la victoire d'un Français, Stéphane Peter Hansel, en moto, 14e victoire. Mais nous, on a eu envie ce soir sur Europe 1 de se souvenir du Dakar mythique, celui qui nous a fait rêver quand on était plus jeune, et surtout d'essayer d'imaginer comment on pourrait retrouver cet engouement. Le Dakar peut-il se réinventer? Comment rallumer la flamme? Un Dakar qui serait bien sûr respectueux de notre planète et de notre environnement. On en parle ce soir avec mes invités. Gérard Fusy, que les auditeurs d'Europe 1 connaissent bien, ancien grand reporter, il a couvert le rallye Dakar pendant plus de 10 ans. Bonsoir Gérard.
Bonsoir.
Nicolas Lefrançois également à mes côtés, journaliste spécialiste automoto, auteur de Dakar 91 aux éditions Hachette. Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis Cyril Neveu, théoriquement, nous rejoindra dans un instant. Il est à la montagne. Il est... Ah, vous êtes là, Cyril Neveu, quelle bonne nouvelle. Bonsoir.
Oui,
bonsoir,
je suis là.
Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir pour ce débat. Je rappelle que vous êtes 5 fois vainqueur du rallye Dakar, aujourd'hui reconverti dans l'organisation de rallye raid. Et puis, on sera également en ligne tout à l'heure avec l'aventurier Mike Horn qui s'est lancé le défi cette année avec le pilote français Cyril Després de participer au Dakar au volant d'un buggy avec lequel ils ont récolté des données pour un futur véhicule propre. Alors, on va parler de tout ça, bien sûr, des polémiques, de l'écologie. Mais je voudrais d'abord qu'on revienne au tout début de cette aventure initiée par Thierry Sabine, 26 décembre 1978, depuis le Trocadéro à Paris. 170 concurrents s'élancent. Objectif, parcourir 10 000 km à travers le désert. La course la plus médiatique de cette fin de siècle est lancée. Cyril Neveu, ce jour-là, vous étiez sur la ligne de départ et vous avez même remporté cette première édition. Est-ce que vous imaginiez à l'époque l'engouement qui allait naître autour de cette course ?
Non, absolument pas. Et il est vrai que je partais pour une grande aventure humaine avant tout. Et j'ai été le premier surpris à la gagner. Et il est vrai que c'était un challenge important. Et je faisais ça en plus en famille, puisque mon père et mon frère étaient en tant que concurrents dans un Range Rover aussi. Et c'était vraiment avant tout un esprit familial et une grande aventure de famille. Et quand je me suis retrouvé en tête, j'étais le premier surpris. Et bien évidemment, j'ai tout fait pour conserver cette tête pour gagner ce premier Dakar.
Le rêve autour du Paris-Dakar, ce rêve que tout pilote avait envie de vivre au moins une fois. Qu'est-ce qui a fait la magie des tout premiers Dakar, Gérard Fusy ?
La magie du Dakar, c'était de partir de Paris après un automne interminable et en plein milieu de l'hiver, de la place de la Concorde ou de Versailles, bourré de monde parce que tout le monde venait terminer la fête de réveillon sur le plan sur le départ, et le monde était afflué de partout et tout le monde rêvait de faire un jour le Paris-Dakar. C'est ça qui était fantastique, la magie, c'est que tout le monde se disait un peu je pourrais le faire, moi je pourrais partir aussi sur le Dakar, et que l'on soit vraiment un sportif de haut niveau ou que l'on soit tout simplement un petit amateur à moto ou en voiture avec des engins bricolés. Et l'idée, c'était de partir de Paris donc en plein hiver et d'arriver à Dakar, d'aller vers le soleil en vivant des aventures qui se renouvelaient tous les jours. C'est-à-dire qu'on savait quand on partait de Paris que tous les jours, il se passerait quelque chose et on ne savait pas quoi exactement, mais ce serait l'évasion absolue pour arriver à faire quelque chose, à faire des choses qu'on ne s'imaginait pas capable de faire. Et ça, c'est ce qui passait dans le public et c'est ce qui faisait que tout le monde parler du Dakar, tout le monde écoutait ce qui se passait sur le Dakar, tout le monde se disait un jour je le ferai.
Et c'est cette ambiance-là que vous nous faisiez vivre sur Europe 1, Gérard Fusy, puisque vous avez donc couvert le rallye Dakar pendant plus de 10 ans. Alors c'était un événement à la fois sportif, à la fois culturel, vous l'avez dit, pour les professionnels comme pour les amateurs. C'était aussi un événement qui est devenu people au fur et à mesure des années. Souvenez-vous, Claude Brasseur et Johnny notamment s'y sont frottés.
Le rêve est une denrée aussi indispensable à l'homme que le pain et que l'eau. Tous ces gens-là, ils regardent passer ça. Pourquoi ils regardent passer ? Parce que quelque part, dans le fond de leur cœur, ils ont un petit peu envie d'y aller.
Le Dakar, pour moi, c'est une épreuve de héros. Et puis c'est mythique. Pour moi, le Dakar, c'est mythique. Je veux pas du tout qu'on dise Johnny Hallyday, c'est une star ou c'est quelqu'un de connu et qui vient faire des photos. Je suis pas venu faire des photos.
Il y a une longue période pendant laquelle le Dakar était incontournable. Il fallait y être, Nicolas Lefrançois.
Oui, il fallait y être. Alors après, on parlait il y a quelques instants de ce qui a fait le succès du Dakar. Je pense que c'était le fait que tout un chacun passionné d'auto ou de moto se disait un jour, je ferai le Dakar. Je vais préparer un 4x4, je vais préparer une moto. Je fais déjà de l'enduro, je fais déjà du cross, je fais déjà du tout-terrain. Et moi aussi, j'irai me frotter aux dunes et au sable du Dakar. C'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui, mais ça on en parlera plus tard j'imagine, il y a un petit peu de désaffection parce que il y a un maximum d'équipes professionnelles et c'est vrai que les amateurs ont désormais beaucoup de mal vu le rythme qui est imposé par la course.
On en reparlera effectivement, Nicolas Lefrançois. Le rêve est une denrée aussi indispensable que le pain et l'eau, disait tout à l'heure Claude Brasseur, on vient de l'entendre. Vous avez vécu, vous, Cyril Neveu, ce rêve et vous en avez donné aussi aux Français. Vous en aviez conscience à l'époque ?
Au départ, bien évidemment, mais il est vrai que quand j'entends Claude Brasseur, ça fait plaisir parce que il est vrai qu'il faisait partie de ces gentlemen drivers qui sont venus avec tout son aura et qui s'est acclimaté à cette course. Et c'est vrai qu'il fallait savoir se mettre au diapason de ce qu'avait voulu Thierry Sabine, et c'est-à-dire tous égaux, aussi bien amateurs que professionnels. On couchait tous par terre, on mangeait tous la même nourriture, plus ou moins bonne, mais je dois dire que c'était un grand élan, et c'est vrai que je ne m'imaginais pas devenir déjà cinq fois vainqueur déjà, et d'en faire mon métier, puisque pour moi c'était avant tout une aventure humaine, et je dois dire que j'en tire une quintessence énorme. Je pense que j'ai appris beaucoup de choses et beaucoup d'humilité à travers cette course, et je pense que je suis devenu un homme qui a été un enfant du Dakar et avec toute cette passion qui m'a mené jusqu'à maintenant de rage de vaincre, aussi bien dans la compétition que dans la vie active.
C'est très beau ce que vous venez de nous dire, Cyril Neveu. On va poursuivre notre débat dans un tout petit instant sur Europe 1. On va revenir sur ces moments qui ont fabriqué justement la légende du Dakar. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Il est 19h32 et on poursuit notre débat sur Europe 1, sur cette course mythique qui vous a sans doute, à vous aussi, donné des frissons. Le Paris-Dakar, on en parle avec mes invités. Cyril Neveu, 5 fois vainqueur du Dakar. Gérard Fusy, grand reporter à Europe 1, et Nicolas Lefrançois, journaliste spécialiste automoto. Alors le Dakar, c'est une histoire de machines, de moteurs, mais c'est surtout une histoire d'hommes courageux, tenace, le courage notamment d'Hubert Auriol, ce jour de 1987 où il a fini la course avec les deux chevilles cassées.
Mon pied a tapé dans l'arbre gauche. J'ai été désarçonné de la moto et j'ai les deux chevilles en compote. C'est la plus belle bagarre que j'ai jamais vue devant le Dakar. Bon, la moto, c'est fini. J'arrête la moto.
Cyril Neveu, Hubert Auriol, on le sait, c'était votre adversaire, mais surtout votre grand ami qui vient de disparaître. Et c'était ça aussi, le Dakar, hein, Cyril Neveu, des histoires humaines extrêmement fortes.
Oui, comme on l'a pu le dire, c'était une grande histoire humaine, une grande aventure humaine. Et il est vrai que avec Hubert, on a tracé dans les années 80 des grandes lignes. C'était un coup à moi, un coup à lui. Et puis c'est vrai que cette année 87 a été fantastique, puisque on se battait à coups de demi-heures, d'heures, et ni l'un ni l'autre ne lâchait, en ne sachant que tout pouvait arriver le lendemain, et c'est ce qui se faisait, puisque un coup il était en tête, un coup j'étais en tête, et jusqu'au dernier moment, jusqu'à l'avant-dernier jour, je lui avais mis la pression, puisque c'était moi qui étais en deçà cette fois-ci. Et il est vrai que quand Hubert s'est cassé les chevilles, j'ai eu cette réaction en disant, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible que je gagne comme ça. C'était horrible. Et c'était la dure loi de la vie. Et je dois dire que, avec Hubert, on avait une grande estime. Et j'ai été très peiné en sachant, bien sûr, qu'il était décédé, puisque c'est 40 ans de ma vie qui s'effacent. Donc ça, c'était très difficile.
Ces histoires d'amitié, ce courage, vous en avez été, vous aussi, le témoin, hein, Gérard Fusy, pour Europe 1.
Oui, alors ce que vient de dire Cyril, c'est très vrai, je l'ai vécu avec lui, avec eux. Il y avait Hubert quand il s'est cassé les chevilles. Ce qui était étonnant à voir, magnifique, vraiment tellement humain, c'était de voir que Cyril était effondré. Ils étaient en bagarre terrible. On ne parlait que d'eux en tête, hein, en tête de la course, puisque ce Paris-Dakar était tel qu'on parlait beaucoup des bagarres humaines en tête et de la course, mais on parlait aussi beaucoup des gens qui étaient à l'arrière, hein, des petits. Mais là, dans ce qui s'est passé entre Hubert et Cyril, c'était phénoménal, parce que des gens qui sont en bagarre pour la première place, pour la suprématie, parce que c'était ça, et puis qui sont aussi proches l'un de l'autre en même temps, ça c'était le vrai Dakar. Et je voudrais dire une chose, c'est que sur le Dakar, les gens qui ont fait le Dakar, qui ont vraiment fait le Dakar, hein, il y a toujours quelques farceurs qui partaient là-bas pour un peu de gloriole, mais la plupart des gens y allaient vraiment parce qu'ils avaient envie de participer. Et ces gens-là, c'est des hommes, quoi, enfin des hommes et des femmes, mais c'est beaucoup de courage, beaucoup de ténacité, vous le disiez. Et c'est vraiment des gens qui savent aller jusqu'au bout d'eux-mêmes. Oui. Et il y a la population qui faisait le Dakar, on en a dit parfois du mal, mais la population des gens qui participaient au Dakar, c'était quand même des gens très très impressionnants.
Alors le Paris-Dakar, c'était ça, hein, côté pile, l'aventure, l'amitié plus forte que la compétition, la magie de cette course et des lieux traversés. Puis côté face, c'était aussi une caravane qui arrive parfois en terrain conquis, des enfants renversés et tués, un désastre pour l'écologie, agression écologique et mépris humanitaire envers les pays africains, illustré par cette chanson de Renault.
500 connards sur la ligne de départ, 500 blaireaux sur leur moto. Ça fait un max de blaire aux portes du désert, un paquet d'enfoirés au vent du Ténéré.
500 connards sur la ligne de départ de Renault, ça vous a fait quoi à l'époque, Cyril Neveu, d'entendre cette chanson écrite en 1991?
Bah, ça m'a fait du mal parce que généralement, toutes ces personnes qui critiquent ne font pas grand-chose pour les Africains. Et nous, en tant que compétiteurs, et notamment Thierry Sabine et Daniel Balavoine, et moi-même après, et Hubert Auriol, et pratiquement tous les vainqueurs, on a monté des associations pour donner des fonds et pour monter des pompes pour le Sahel. Alors, j'ai eu pas mal de débats avec des gens médiatiques, comme Noiret, comme des gens que bon, je ne citerai pas tout le monde, où ils dénigraient beaucoup cette face cachée. Et je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous faites, vous, pour l'Afrique? Nous, il est vrai qu'on y concourt, les pays sont souverains à nous accepter, et nous, on essaye de les aider. On essaye de les aider par nos propres moyens. Mais souvent, les critiques de ces personnes, j'aimerais savoir exactement ce qu'ils ont fait. À mon avis, pas grand-chose.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu beaucoup d'accidents hein, sur le Dakar. 70 morts, hein, dont 27 concurrents. Je crois, le dernier en date, on l'a appris malheureusement ce matin, c'est le motard français amateur Pierre Cherpin qui a succombé à ses blessures. Des pilotes qui meurent ou qui tuent, parfois par accident évidemment, qui percutent les habitants des régions traversées.
Est-ce qu'il faut remettre en question l'épreuve à cause de ça? Peut-être. Moi, je dis peut-être. Est-ce que ça en vaut la peine de faire mumuse comme ça? Malheureusement, quand ça tourne au drame, eh bien, c'est triste au point de réfléchir sur la suite de cette discipline.
Un pilote sur Europe 1 au micro de Damien Gourlet après la mort accidentelle d'un enfant. Chaque année, c'est quelque chose que l'on redoutait, hein, Nicolas Lefrançois, ces terribles accidents.
Oui, malheureusement, vous avez un peu parfois la même chose dans des rallyes routiers du championnat du monde, avec des gens qui sont trop près des voitures, qui sont à des endroits où ils ne devraient pas être. Ce sont malheureusement des choses qui arrivent et qui donnent de l'eau au moulin des détracteurs, c'est clair.
Alors on arrive à l'autre sujet qui fâche, l'impact sur l'environnement, des déchets abandonnés après le passage de la caravane, des milliers de litres de carburant brûlés par des véhicules superpuissants, un bilan carbone catastrophique. Écoutez ce que disait en 2014 ce paléontologue péruvien sur Europe 1.
Ah oui, des dommages, il y en a eu. C'est pour ça que j'ai dénoncé et que je dénonce encore aujourd'hui ces dégâts. Pour qu'une fois pour toutes, on en finisse avec ce cauchemar du Dakar, qui non seulement provoque des dégâts irréparables, mais qui est aussi une honte absolue.
Cette part d'ombre, Gérard Fusil, elle est apparue assez rapidement et pourtant au début, on n'a pas voulu la voir.
Oui, alors, il y a toujours eu effectivement des détracteurs. Hein. D'ailleurs, il y a des côtés qui ne sont pas les meilleurs côtés du Paris-Dakar. Ce que disait Cyril est vrai, les gens qui sont allés sur le Dakar ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient bien souvent parce qu'ils sont tombés amoureux de ce continent. Il faut dire aussi que les Africains adoraient le Paris-Dakar. Hein. Pour eux, c'était à la fois un grand spectacle, c'était un échange, c'était quelque chose d'étonnant. Alors après, il y a effectivement le carburant brûlé. Bon, bah, je préfère pas en parler. On brûle du carburant partout. On en brûle sur le Tour de France, on en brûle sur les rallyes, on en brûle partout. tout. Ça voudrait dire qu'il faudrait tout arrêter. Maintenant, est-ce que le Dakar se comportait bien en Afrique? Je crois qu'il se comportait du mieux possible et que en fait, il y avait quand même un véritable échange aux étapes entre les concurrents du Paris-Dakar et le Paris-Dakar. Quant à tout l'aspect un peu pollution, même des grands hommes comme Théodore Monod ont critiqué le Paris-Dakar en disant que ça faisait des ravines, ce qui n'était pas vrai. C'est peut-être un très grand, mais en même temps, il faisait une erreur puisque les ravines se créent sur les pistes quand il y a à la saison des pluies. Et là, c'était à la saison sèche. Et au contraire, je dirais presque que le Dakar, eh bien, égalisait un petit peu les endroits où il y avait beaucoup de ravines. Donc, il y a eu beaucoup de bêtises qui ont été dites. Mais on ne peut pas dire non plus que le Paris-Dakar était entièrement positif, bien évidemment. Bon, il y avait des dangers, il y avait des drames. Et comment les éviter ?
Alors justement, on va se retrouver dans un tout petit instant. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut réussir à retrouver cette magie du Paris-Dakar dont vous parlez si bien tous les trois. Comment la course peut-elle aujourd'hui se réinventer ? À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Comment retrouver la magie du Paris-Dakar ? Comment la course peut-elle aujourd'hui se réinventer ? On poursuit notre débat sur Europe 1 avec Cyril Neveu, Gérard Fusy et Nicolas Lefrançois. On en parlait tout à l'heure, les dégâts de cette course sur l'écologie à l'heure où l'on a enfin compris qu'il fallait respecter notre planète. Je vous avais promis qu'on serait en ligne avec Mike Horn, l'aventurier sud-africain qui vient de participer à ce Dakar avec le Français Cyril Després à bord d'un buggy Peugeot afin de recueillir le maximum de données et permettre la fabrication d'un prototype de voiture à pile, à combustible fonctionnant sur l'hydrogène. Alors avec le décalage horaire, il ne pouvait pas être en direct avec nous, mais je l'ai eu au téléphone juste avant cette émission et je lui ai demandé si son rêve, eh bien, c'était un Dakar 100% hydrogène.
C'est tellement important pour moi parce que j'ai vu nos terres changer pendant 30 ans d'exploration. Et puis, si je peux laisser ça, en fait, qui va changer la mobilité dans le futur, c'est un projet pour moi qui est très important.
Ce serait un bel héritage. Vous pensez que c'est une course qui va de nouveau pouvoir faire briller les yeux ?
Moi, je suis à 100% sûr parce que en parlant, en fait, avec les jeunes et puis En fait, on est suivi par pas mal de jeunes qui critiquent un peu tout ce qui est motorisation traditionnelle. Et puis, avec ce projet, il y a beaucoup de jeunes qui sont plus intéressés dans la nouvelle manière de se déplacer en hydrogène. Et puis, c'est justement ça. Ça va attirer une génération plus jeune parce que c'est eux qui vont vivre, en fait, sur notre planète plus tard.
Cyril Neveu, c'est des hommes comme ça, comme Mike Horn, qu'il vous faut pour relancer le Dakar aujourd'hui ?
Oui, et bien évidemment, j'ai été très très surpris, très heureux qu'un Mike Horn participe et que Peugeot vienne à la rescousse pour essayer de faire en effet des véhicules propres pour cette course. De toute façon, on y viendra tous dans tout le sport mécanique et je pense que c'est une très très bonne chose. Après, je pense que ça sera compliqué et long, mais quand on voit les paysages que l'on a pu découvrir aussi, on en parle peu, mais je pense que c'est important de le dire. À l'Arabie Saoudite, bon, ça me faisait penser bien sûr à l'Afrique. Bon, le pays, c'est pas ce que je préfère, mais le décor était tellement merveilleux que on a retrouvé ces beaux décors d'Afrique et cette plénitude. Et donc, il est vrai que l'avenir est pour ça, et tant mieux si des jeunes, comme dit Mike Horn, y viennent y participer, puisque je pense que c'est l'évolution, bien sûr, du futur.
Nicolas Lefrançois, le rallye Dakar, ça pourrait être la vitrine verte des constructeurs ?
Oui, et ça va être un sacré juge de paix parce que aujourd'hui, faire fonctionner une pile à hydrogène pour produire de l'électricité, déjà, il y a un petit hiatus, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait quasiment pas produire de l'hydrogène vert, entre guillemets. Pour produire de l'hydrogène, on utilise du carburant fossile. Donc, il y a ce petit hiatus, mais...
Ce que vous nous dites, c'est que ce n'est pas pour tout de suite. Hein.
Quand on voit le calendrier mis en place par les organisateurs, on parle d'une obligation totale pour les camions et les voitures en 2030. Donc, ça laisse un petit peu de temps, mais on attend toujours une rupture technologique pour des questions de poids, pour des questions de consommation, pour des questions de fragilité. Il faut savoir que le cœur d'une pile à hydrogène, c'est des petites plaques qui sont les unes à côté des autres. Ça ne supporte pas bien les vibrations, ça ne supporte pas bien la chaleur, ça ne supporte pas bien la poussière. Donc c'est un sacré challenge qui attend les constructeurs, mais auquel ils vont s'attaquer. Ils se sont déjà attaqués, c'est certain.
Et pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus vite dès la prochaine édition ? Je sais qu'il y a une nouvelle catégorie qui va voir le jour, qui sera réservée aux camions 100% électriques ou hybrides. C'est un début, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus vite ?
Parce qu'aujourd'hui, la technologie, c'est ce que je vous disais à l'instant, on attend une rupture technologique. Aujourd'hui, on va parler d'automobile, par exemple, pour faire 1000 km avec une voiture de tourisme, vous emmenez 40 kg ou 45 kg de carburant, vous faites 1000 km. Vous emmenez 40 ou 45 kg de batterie, vous faites 3 km. Le problème, l'énorme problème, il est là. Tant qu'on n'aura pas réussi, grâce à une rupture technologique, à franchir ce pas, on aura des soucis.
Gérard Fusy, un Dakar 100% écolo, ça suffirait pour qu'il redevienne populaire ?
Oh, je ne pense pas. Hein. Je crois qu'il faut aussi des parcours. Quoi, en fait. Il faut avoir ce côté parcours. Le fait de quitter Paris, c'était très, très important. Et d'aller vers le sud, c'était très important. Vous savez, le monde se ferme, malheureusement. On ne peut plus aller en Algérie du sud, c'est dangereux. On ne peut plus aller au Mali, on ne peut plus aller dans le Ténéré ni dans le Sahara. On ne peut plus aller non plus en Mauritanie de façon sûre, etc. Donc les parcours sont difficiles. Il faudrait réussir à trouver quelque chose, un parcours qui vraiment fasse rêver comme il faisait rêver à l'époque. Donc ça, c'est difficile. Maintenant, ce que je pense sur le plan de l'évolution, effectivement, c'est le rallye Dakar a été très important sur le plan de l'évolution des automobiles, et notamment des 4x4. Je crois que l'évolution, le progrès a abîmé la planète, c'est certain. Je pense que le progrès va sauver la planète. C'est-à-dire que maintenant, effectivement, faut orienter nos recherches vers tout ce qui peut être durable, sauver la planète, ne plus abîmer la planète, mais au contraire, la refaire revivre, la réinventer, quoi, d'une certaine manière. Et ça, évidemment, si on réussissait sur une épreuve comme le Dakar à trouver des solutions, je pense que ce serait évidemment très important. Mais il ne faut pas rêver, ce sera très long, comme le disait mon confrère.
Cyril Neveu, vous le voyez, comment vous, l'avenir du Dakar ?
Bah, compliqué. Il est vrai que comme le disait Gérard, déjà trouver des parcours adéquats. Là, je pense qu'ils l'ont trouvé par la magie du désert, par la magie de la navigation. Et il est vrai que cette magie de la navigation redistribue les cartes entre des privés qui peuvent tirer une épingle du jeu de temps en temps. Je dis bien de temps en temps. Et ça, c'est très bien. Et après, par une nouvelle technologie, pourquoi pas. Mais ça mettra du temps. Et je pense que déjà, au niveau du parcours, ça, c'est déjà un point positif, ce qu'a trouvé Castera, un terrain de jeu assez fabuleux, en tout cas au niveau des décors et au niveau de la navigation qui redistribue totalement les cartes. Et ça, je pense que c'est très bien, puisque rien n'est jamais fini. Si on a 10 ou 15 minutes ou 20 minutes de retard, le concurrent adverse peut les perdre aussi. Et ça, je pense que ça peut redonner un petit peu d'élan. Et il est vrai que de toute façon, dans tout sport mécanique, l'arrivée des usines fait que ça écrase les privés de toute façon.
Faute de mieux, il faut qu'il reste en Arabie Saoudite, Nicolas Lefrançois, le Dakar.
C'est surtout un petit peu, ça fait partie des rares choix qui restent possibles. Hein, Gérard l'évoquait à l'instant, la situation internationale est tellement, tellement compliqué que c'est difficile. Parmi les morts qu'on évoquait tout à l'heure au Dakar, il ne faut pas oublier qu'il y en a qui ont été tués par balle par des insurgés. Donc aujourd'hui, il faut à la fois trouver des parcours, un pays qui accueille, qui a les moyens économiques et la volonté d'accueillir et qui garantisse aussi la sécurité de l'ensemble de la caravane qui doit se monter aujourd'hui à 2500 personnes, je crois, concurrents et organisateurs. Donc en fait, ça va être un petit peu un choix par le moins, quels sont les pays. Mais il y a une chose qu'on n'a pas abordée et qui est un petit peu antinomique avec ce progrès, ces véhicules hybrides dont on nous parle pour l'avenir du Dakar. Moi, il me semblait, en tout cas, c'est ce qui passionnait tout le monde au début du Dakar, c'était qu'il y avait à peu près 50% d'amateurs, 50% de professionnels.
Oui.
Aujourd'hui, on est à 95% de professionnels, 5% d'amateurs. C'est ça qui faisait rêver. Tout le monde se disait, on en parlait en début d'émission, tout le monde se disait, moi, un jour, je ferai le Dakar à moto, en voiture, en camion, etc., etc. Aujourd'hui, c'est un rêve qui s'éloigne de plus en plus, vu les moyens qui sont nécessaires et la dureté des parcours et les vitesses atteintes.
C'est ça la clé, Cyril Neveu, faire revenir les amateurs pour faire de nouveau briller les yeux des petits et des grands.
Oui, je suis pas totalement d'accord. Je pense que c'est pas 80%, c'est 40-60. Il n'y a pas tant que ça de pilotes professionnels, hein. En tout cas, qui gagnent leur vie. Ils sont tous un peu de leur poche et essayer de. Il est vrai que c'était cette magie de pouvoir confronter des privés et qu'un privé puisse de temps en temps gagner une étape. Gagner le Dakar, c'était, je l'ai fait la première année. Et après, il est vrai que je me suis retrouvé très vite professionnel. Mais je pense que oui, ça fait partie des clés, mais ça fait partie des clés aussi avec un parcours qui est adapté à avoir des différences, non pas que mécaniques, mais des différences humaines avec un matériel qui ne surplante pas l'humain. Et l'humain doit être très important. Et c'est vrai que la magie du Dakar est avant tout ce mélange entre les privés et les amateurs. Merci. Mais je pense que il y en a quand même pas mal et ça fait encore rêver, moi je le vois encore.
On l'espère en tout cas. Merci beaucoup à tous les trois. Cyril Neveu, 5 fois vainqueur du Rallye Dakar. Gérard Fusy, on a eu grand plaisir à vous réentendre sur l'antenne d'Europe 1. Gérard, merci à vous. Merci également Nicolas Lefrançois.
Ça me fait plaisir aussi.
Merci Nicolas Lefrançois, journaliste spécialiste auto-moto.
Europe 1, écoutez le monde changer.